Je voulais revenir sur le jardin, notre implication dans le jardin par rapport à comment on comprend le travail. Le travail. Dans le fond, c'est quoi le travail que Dieu nous donne? Histoire glorieuse qui vient de nos vies. Deux ans après ma conversion, j'ai commencé un parcours universitaire avec une concentration en études bibliques, avec une concentration mineure en psychologie. J'ai fini mon bac. Yay! Okay. Patricia et moi, on s'est mariés. Yay! Okay. Oui. Dans la première année de notre mariage, j'avais mon bac, on était mariés et on a eu un bébé. Pardon. La première année, moi aussi, j'étais malade, je faisais de la mononucléose. Et avec mon bac, en concentration en études bibliques, c'est très payant. Et une concentration mineure en psychologie, j'ai trouvé un travail vraiment très stimulant, mais excitant. Vous savez c'est quoi un Walmart? Walmart, oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Walmart. C'est comme dans la période de Genèse, avant le déluge, il n'y avait pas de Walmart. mais c'était un magasin qui ressemblait à un Walmart. Comme un Zellers, là. Mais c'était pas un Zellers. Non, non, non. OK, d'accord. Mais alors, c'est dans ce magasin-là qu'avec mon bac, là, que je travaillais. Et je vendais des trucs électroniques, puis les disques, en vinyle, là. Ouais, c'est classique, ça. Ouais, ouais. Donc, j'étais aussi engagé comme pasteur de la jeunesse à très peu, un temps partiel, mais comme 6 heures par semaine, quelque chose comme ça, là. Et c'était vraiment, quand je pense à ce que j'ai vécu pendant cette année, comment on a vécu ça, là, j'étais malade. Souvent, on avait à nous présenter à l'église pour comme 6h30, 7h. On était couchés. On était tellement fatigués. On se levait. On devait se dépêcher pour arriver à l'église pour être là avant le groupe de jeunes. Et pour moi, c'était un échec. Les gens de l'église étaient vraiment, vraiment gentils à notre égard. Patients avec moi plus qu'avec Patricia. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette année-là, mon travail, c'était quoi mon travail? Oui, je travaillais. Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on redéfinit travail comme contribution, participation, apport que nous pouvons vivre en Jésus-Christ, qui inclut ce que nous faisons sur le plan professionnel? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, si je suis parent à la maison, je travaille. Merci. Okay. Voilà. OK. J'apporte une contribution. Je partage mon élan dans la grâce de Dieu, c'est dire comment je peux participer à ton royaume, à ce que tu fais, à ton œuvre. En travaillant dans le magasin, avec mon bac. Un an plus tard, on n'avait pas assez là. On est déménagé pour étudier encore. Et là, j'ai travaillé dans un poste d'essence avec un lave-auto, en faisant mes études aussi. Parfois, j'étais très découragé. C'était dans l'État d'Ohio, mais l'hiver est quand même une réalité moindre. Travailler dans un lave-auto, à l'époque, il y avait du vrai monde, les êtres humains qui entretenait des lavoteaux. C'est bizarre comme concept. C'est cruel. Mais j'arrivais à la maison, là, il faisait froid, il y avait de la glace sur mes pantalons, là, parce que, tu sais, en travaillant, d'aller dans la voto, sortir de la voto à moins 10, je sais pas, là, ça faisait partie de mon travail aussi bien que le fait que j'étais étudiant au deuxième cycle. Là, encore avec une concentration néo-testamentaire. Et j'étais père, j'étais mari. On est devenu membre d'une église pour la première fois de nos vies. Au moins une église comme évangélique, là. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important pour nous et de comprendre le travail comme la contribution que nous avons selon les dons et c'est dans la situation que Dieu nous donne à vivre là où on est. Je peux être malade et travailler. OK? Jonathan, tu... Non, je peux être physiquement très limité et entrer dans ce que c'est de travailler, d'apporter ma vie, d'apporter ce que je suis, de contribuer au nom de Dieu, dans mes limitations. Je peux être pauvre et travailler. Je peux être riche et travailler. Mais le travail ne se limite pas à ce que je fais sur le plan professionnel. C'est ce que je fais dans le jardin. Ça va? Si on accepte ça, dans un sens, c'est glorieux. Encore, ça nous construit comme personne devant Dieu, de voir quelle dignité que Dieu accorde à nos vies, à toutes les dimensions de nos vies, pas ce que la société en dit. Parenthèse, énormément de discussions, au moins dans la région de Montréal, par rapport à ces étudiants au niveau du cégep qui ont décidé d'aller faire le saut avec ISIS. Oui, oui. On dit que, ben non, c'est pas possible. Une fille qui étudie au cégep, là, elle demeure à Laval. À Laval! Même pas à Montréal, OK? En ville, là, elle est à Laval. Puis elle veut s'impliquer là-dedans. C'est quoi, ça? Mais on ne sait pas, hein? Mais au moins en partie, possiblement, une hypothèse possible, c'est qu'elle ne voyait pas que sa vie, là où elle était, pouvait être vraiment un travail, un apport, une participation à quelque chose qui avait un sens, qui valait quelque chose. Hypothèse, ce n'est que ça. Elle dit, mais là, je peux vivre quelque chose qui a un impact. Là, je peux vivre quelque chose qui me comble. Mais comment comprendre ça? Mais il faut qu'il y ait vide. Il faut que, quand on regarde la vie autour de soi, on dit, ce n'a pas de sens, je ne peux pas travailler. Je n'ai pas de contribution à faire. Mais en Jésus-Christ, il change tout ça. Et tout de suite, c'est comme, David, veux-tu servir? Veux-tu participer? C'est pas qu'il faut que je fasse 3 ou 4 ans avant de me qualifier pour faire ça. Je suis déjà là. À l'appel même de Jésus, on est là. Ce qui nous motive dans notre formation, ce qui nous motive dans notre façon de faire ce qu'on fait. Mais c'est global. Il n'y a pas de partie de nos vies qui ne sont pas touchées par ça. Est-ce que ça a du sens, là, ce que je dis? Donc, si on n'étudie pas pour trouver un travail. On est déjà dans le travail. On va parler de ça plus tard. Okay. Alors, dans le monde, pas du monde, avec Jésus, ou bien avec Jésus dans le monde. Jésus devient notre modèle encore pour ce que c'est de vivre, d'être pleinement présent dans le monde et de vivre pour accomplir la volonté du Père. Jean 17, Jésus se dit comme ça. Alors, encore thèse, ce qui est le plus important pour nous, si on veut répondre à cet appel d'être dans le monde, mais pas du monde, c'est de demeurer en relation avec celui qui est notre modèle. La première chose. Il y a un texte dans l'Évangile de Marc que j'aimerais regarder avec vous. C'est Marc 3, les versets 14 à 17. C'est quand Jésus appelle les 12. Enfin, il y a des récits parallèles en Matthieu et Luc, mais avec quelques différences. Donc, Marc, il inclut quelque chose ici qu'on ne trouve pas en Matthieu et Luc. Je dis ça juste pour un peu être honnête. Ça dit, puis Jésus monta sur une colline, il appela les hommes qu'il voulait, ils vinrent à lui. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Le mot apôtre veut dire envoyé. Okay? Il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12, je ne les nommerai pas. Okay. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Il fit cela. N'est-ce pas intéressant dans la Bible quand on a une phrase comme ça? Quand il y a comme une parabole, et après Jésus dit, et voici l'explication, on est comme, yes, ok. T'sais, il dit, là, il explique lui-même. Ici, il dit, Jésus appelle, il invite les 12 à venir, puis après il dit, pourquoi? J'aime ça. Il fit cela pour les avoir, première étape, avec lui. On saute cette étape-là. On va directement à la deuxième étape. Il fit cela pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Non. Il fit cela pour les avoir avec lui. Avec lui. Avec lui, là, on peut dire, il y a une vision de la vie chrétienne qui dit que je viens dans la foi et il y a une première étape. J'apprends à être avec lui. Et après, par la suite, presque comme une suite chronologique, comme maintenant je sais c'est quoi d'être avec lui, il m'envoie par la suite. Mais c'est une fausse représentation de ce que c'est la vie chrétienne. Parce que les deux sont toujours ensemble, en parallèle. C'est pas séquentiel, c'est une coïncidence, c'est en parallèle, c'est les deux en même temps. Et notre problème, c'est qu'on les sépare. Comme si, ah, j'ai vécu ça, être avec Jésus, maintenant, je m'occupe de ce que c'est d'être envoyé. Même on parle, on a un langage comme ça, dans nos églises et dans ce qu'on vit là ensemble. On dit, as-tu suivi un programme de formation de disciples? Ben oui, tu sais, j'ai fait ça avec un tel, puis on a utilisé tel guide, puis j'ai passé à travers ça, là. Tout le kit, là, j'ai le diplôme à la maison. OK? Maintenant, j'ai fait ça. La mentalité, c'est j'ai fait ça. J'ai été formé comme disciple. Ça vous va, là? Est-ce que ça c'est pas comme un langage qui vous est complètement déconnecté, là? Peut-être. Si oui, ben j'en suis content. Mais l'idée que j'ai vécu ma formation de disciple, maintenant, je suis leader. Maintenant, je forme d'autres. Comme si j'arrêtais la première partie pour tomber dans une autre phase. C'est pas ça, là. On reste dans la phase avec Jésus et l'expression change. Avec Jésus comme leader, avec Jésus comme quoi? Parents avec Jésus, comme on complète la phrase. Si, enfin, vous savez que je viens d'un arrière-plan, ben non, je viens d'un arrière-plan luthérien, je me trouve dans une situation d'église, dans une église qui a des racines dans le mouvement anabaptiste, donc ce qu'on appelle une église de paix. Est-ce qu'il y a une autre sorte d'église? Comme... Il y a des églises de paix, puis il y a les autres. C'est les autres. Non, c'est toutes les églises sont des églises de paix. Bon, OK. Mais je vais prendre un exemple, une image militaire. OK? Ça vous va, là? Ne vous choquez pas, là. OK? Moi, je viens d'une famille. Mon deuxième nom, c'est Earl. Earl. OK? En anglais, là, souvent, dans le deuxième nom, là, ça a rapport à quelqu'un dans la famille quelque part. Mon deuxième nom, c'est Earl. Earl, c'était mon oncle. Mon oncle est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faisait partie d'un équipage d'un bombardier qui faisait des sorties à partir d'Angleterre pour décharger les bombes sur l'Allemagne. Et bon, il est mort pendant la guerre en faisant ce travail-là. Ma mère m'a nommé pour lui. Mon héros, quand j'étais petit, c'était mon oncle, un autre oncle, qui était lui-même pilote d'un avion sur un porte-avions. Plus cool que ça, tu meurs. Tu sais, quand j'avais comme 9-10 ans, là, son porte-avions là, était là, dans la Virginie, là. On était allés, j'ai vu ça. Et dans ma tête, j'ai peut-être créé ce souvenir-là, mais j'étais sûr, il m'a amené là, sur le porte-avions, mais ça... Je suis pas sûr là que t'es... mais j'aimerais croire que c'est que j'ai vécu ça. Peu importe. C'était mon héros. Il pilotait un avion sur un porte-avions A. Okay. C'était suite à ma conversion que j'ai vécu un changement par rapport à mon attitude vis-à-vis de la guerre. Juste pour que vous me connaissiez un peu. Mais l'image que j'utilise, c'est tirée de l'expérience militaire. OK. On est dans l'armée, là. On veut faire la guerre. Là, ce qu'on va faire, là, on va trouver toutes sortes de monde qui sont prêts à participer. OK? Tu sais, on fait un appel. Tu sais, le pays a besoin de vous. Les gens se présentent. On dit, allez-y. Go, les. Tout le monde, là. Je dis, même pas les gars, OK? Tout le monde, tu sais? On les accueille, ces gens-là, on leur donne des vêtements, on leur donne une arme, on dit, allez-y! Est-ce que c'est ça qu'on fait? Non. C'est une folie. Hein? C'est une folie. Même si on ramassait 200 000 personnes comme ça, et on les envoie de même, équipés même, ils vont se faire tuer. Ils ne pourront pas réaliser le projet qu'a le pays parce qu'ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas la formation. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les accueille. Ils vivent même dans un monde. On va les former. On va même changer leur mentalité, leur façon de voir les autres, leur façon de voir la guerre. On va leur parler d'une chaîne de commande. On va leur parler d'autorité. Et après, on les met aussi en groupe. On parle d'une cohésion, d'une allégeance, d'un attachement les uns pour les autres. Et après, on les envoie. Mais nous, parfois dans l'Église, au lieu de vivre ça, on parle tout de suite du langage « il faut aller ». Il faut aller. Puis, on oublie que pour aller, il faut vivre quelque chose avec Jésus qui devient source de cette expression-là, qui alimente, qui rend possible même le fait de marcher avec Jésus dans le monde. Alors, Jésus appelle les douze, il dit, je veux qu'il les appelle pour être avec lui. Ça implique le fait de vivre avec lui, de voir comment il est, de l'écouter, de lui poser des questions, de vivre ce que c'est de recevoir de la grâce de sa part dans sa propre vie. Enfin, avec lui, c'est une relation qui transforme tous les aspects de nos vies, qui va, j'ose, au-delà du principe. Je m'explique. Il y a un moment quand Jésus, dans le sermon sur la montagne, il est craqué un peu, c'est-à-dire qu'il est un peu émotif, peut-être. Il est au moins déterminé à faire passer son message. Il dit, le contexte, c'est qu'il parle de l'importance de la loi, de l'importance des principes. Mais il dit, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Wow. OK? Peut-être que nous, on perd ça, là, parce que le contexte est différent. Mais si les personnes qui sont les plus dévouées, il parle des pharisiens, les gens qui étaient les plus dévoués par rapport à l'obéissance, à leur façon de recevoir la loi, il dit, si votre justice ne dépasse pas la leur, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde dit, bon, OK. Qu'est-ce qui se passe? Quoi faire? Quoi faire? Mais c'était quoi le problème? C'est parce que l'obéissance de la loi, une façon de saisir la loi, n'arrivait pas à transformer le cœur des gens qui pratiquaient. C'était vu comme une obéissance extérieure. Et même, on pouvait redéfinir la compréhension de la loi pour rendre ça possible, tout en gardant une attitude qui était à l'opposition de ce que la loi disait. Si la loi parlait au fond, à la base, d'aimer Dieu, de vivre sa vie en communion avec lui et d'aimer son voisin, de souhaiter le bien, de chercher à exprimer de l'attachement, de l'aide pour son voisin. Jésus dit, votre justice, si elle ne devient pas partie de qui vous êtes, la justice de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez pratiquer comme vous voulez. Mais si vous n'êtes pas transformé à l'intérieur, si vous ne vivez pas cette communion avec le Dieu qui aime les autres et qui parle de grâce, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Enfin, Jésus parlait d'une façon ou de vivre de manière à ce que la justice de Dieu nous habite, nous libère et nous transforme. Nous avons déjà parlé de le Dieu qui nous aime, le Dieu qui s'implique, qui s'engage avec nous. Nous voyons cette réalité dans la personne de Jésus. J'ai lu un auteur, mais on en a parlé un peu en abordant le texte, mais pour Jésus, la sainteté n'était pas d'abord une question de distance, mais de différence. Pour moi, ça reste avec moi là, parce que encore, ça me prend des trucs comme ça. Pas de distance des autres, mais de différence dans ce qu'on vit. C'est quoi notre vision de la sainteté? Qu'est-ce qui nous garde dans une sécurité par rapport à notre démarche avec Dieu? OK. Ce que nous voyons chez Jésus, c'est la capacité d'entrer en relation avec les autres, avec toute une gamme de personnes, tout en demeurant fidèle à Dieu. Vous savez qu'une fois, quand Jésus a décidé de parler à la femme samaritaine au puits, vous vous souvenez de ce texte-là en Jean 4, là? Quand les disciples reviennent, leur réaction, c'est « Mais comment ça tu parles à elle? » Là, là, seule. C'est mal vu, là. Tu ne comprends pas comment ça, les règles de jeu ici, là. Comment les attentes, comment les gens les comprennent les relations. Jésus ne respecte pas cette frontière-là. Il dit, j'entre en dialogue avec cette femme. Il est critiqué par ses propres disciples parce qu'il ne respecte pas la convention de garder distance. Vous dites, on peut dire, mais c'est dangereux. Est-ce qu'il y avait danger? Oui. Où était la sécurité? Où était la liberté de Jésus? Dans sa relation avec Dieu? Dans ce qu'il vivait à l'intérieur? Là, vous dites, wow! OK? C'est trop dangereux, ça. Est-ce que, David, tu veux dire qu'on peut faire n'importe quoi? On peut aller n'importe où avec n'importe qui? Et c'est correct. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand, si on prend Jésus comme modèle, ce n'est pas où il est d'abord qu'il l'établit comme une personne qui est consacrée à Dieu ou avec qui il parle. C'est ce qu'il vit à l'intérieur. J'ai vécu une expérience tout de suite après ma conversion qui était drôle, mais qui m'aide quand même. J'avais déjà pris l'engagement d'aller à la plage, comme on dit, moi j'étais en Pennsylvanie à l'époque, là on est à 2 heures de la côte est, sable, la mer. Okay. On peut partir le matin, passer la journée sur la plage, revenir le soir si on ne boit pas trop. C'est comme ça. J'avais pris l'engagement d'y aller avec mes amis. Entre-temps, merveilleusement, de façon étonnante, Dieu s'introduit dans son amour, dans sa vérité, dans ma vie, en Jésus-Christ. Les plans étaient toujours là. J'appelle mon ami, il s'appelle Marc. J'ai dit, Marc, je pense que je n'irai pas à la plage avec vous. Il dit, ah, parce qu'à l'époque, il m'appelle Mill. Il dit, ah, Mill. Il dit, ben non, tu viendras avec nous, là. On veut que tu viennes. Là, vous dites, ben c'est simple. Je dis non, c'est mon ami. Je comprends, ben je suis jeune chrétien, là. Je ne sais pas quoi dire. Sauf que c'est mon ami, je les connais, les gars, là. Lui, il insiste. Moi, je dis, OK. Merci. J'ai dit merci même. Wow, merci. Parce que je lui ai dit, mais ça va être plate pour vous. Parce que, tu sais, ce qu'on fait quand on va là-bas, là, c'est pas ça que je veux. C'est-à-dire de, OK, les filles, puis bon. OK? Puis je veux pas faire ça. Il dit, non, on veut que tu viennes. Alors, je dis, OK, bon, j'y vais avec eux. On est 4. On a même pris une chambre de motel là, pas loin. C'était drôle. Hein? Triste, drôle. Bon. Si on sort là, puis on soirée, on se promène, c'est normal. Vers 9h, là, je dis, OK, les gars, mais je rentre. J'avais même ma Bible. C'est cute, hein? Je rentre dans la chambre, là, je suis bien là. Mais les gars, ils ne font que commencer. Ils boivent beaucoup, là, ils rentrent vers 2-3 heures du matin. C'est difficile comme côté coordination. Okay. Ouais. Mais c'était mes amis. Donc, je vivais là une tristesse et en même temps, je vivais dans l'amitié. Je ne raconte pas ça comme modèle. mais je suis content de l'avoir vécu comme ça. Je ne voulais pas vivre ce qu'eux, ils vivaient. Pourquoi? Pourquoi je ne voulais pas? Pourquoi ce n'était à ce point-là même pas dangereux? Vous dites, c'est le délire. Non, 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 ce n'est pas le délire. C'est que ce que je vivais me mettait dans une position où je ne voulais pas, mais je ne voulais pas vivre ce qu'eux, ils voulaient. Ils vivaient, mais je les aimais. C'était mes amis. Il n'y a pas une réponse. Si vous m'aviez dit à l'époque, les chrétiens matures, n'y va pas. Est-ce que vous aurez eu raison? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, ce que je peux vous dire, c'est que quand, à cause de la relation que je vivais là, je pense que c'était bien. Mais je me suis déjà trouvé dans d'autres circonstances où je sentais mon cœur attiré et dit, tu ne peux pas rester là. Donc le critère n'est pas où. Le premier critère n'est pas où est-ce que je me trouve. Le premier critère, c'est que qu'est-ce que je vis avec Dieu là? Qu'est-ce que je vis avec Dieu là? Ce n'est pas avec qui je parle ou je me tiens d'abord. Si c'est ça, le modèle de Jésus n'a aucun sens, n'a pas de rapport. Mais qu'est-ce que je vis comme quelqu'un qui appartient à Jésus dans cette relation-là? Et là, Dieu va exposer l'attitude de mon cœur. Et c'est une bonne chose. Et je vais pouvoir dire, OK, je peux rester ici ou non. La sécurité, c'est dans la relation et dans l'ouverture qu'on vit avec Dieu. Ce n'est pas juste là. Mais je veux encore parler de proximité. Une autre expérience, mais qui m'a marqué. J'étais beaucoup plus mature maintenant, beaucoup plus mature. Oui. Okay. Là, je suis pasteur. Okay. Bon. Okay. Il y a un groupe qui vient des États-Unis pour prier avec nous par rapport au projet de l'intersection. C'est l'année avant le début de l'Église. Vous connaissez ces groupes-là? Ils viennent de l'extérieur, là, ils veulent comprendre, c'est un voyage comme pour apprendre, parfois on appelle ça, ils sont en mission, ou bien ils viennent soutenir, viennent prier avec, ça vous donne l'idée là? C'est peut-être une dizaine de personnes des États-Unis, c'est leur première visite au Québec. Okay. À un moment donné, on va dans le parc, dans des vieux moulins là, à Terrebonne, c'est très beau. On se promène là, on prie. Marche de prière, ça vous dit quelque chose? Hein? OK? On vit ça. À un moment donné, il y a un amphithéâtre dans le parc. Moi, j'ai l'idée que ce serait bien pour nous, on va monter sur sur scène, puis on va juste se mettre ensemble, ça va être une bonne place pour prier quelques minutes. Il y a des petits gars là, qui sont là, des petits gars, OK? Des jeunes, c'est 13, 14, je pense, OK? Ils sont là en vélo. 3, 4, j'oublie. Mais c'est leur coin, là. Nous, on est dans leur espace. Ouais? Ils viennent là, ils ont des petites cigarettes, là, comme... j'oublie ce qu'on appelle ça. C'est pas des cigarettes normales, là, c'est un peu plus... Pardon? Non, pas là. Mais ça aurait pu... Mais c'était surprenant parce que c'est des petites cigarettes comme qui on dirait que fument des Français là. Non, c'est comme peut-être comme plus comme une cigare mais petit. Comme si ça coûtait. Quand tu vois ces dix, ça doit coûter cher ça. Mais alors ces gars se promenaient avec ça, peut-être qu'un des parents. Mais les gars, ils étaient là pour fumer puis pour juste passer le temps ensemble. Bon, ok. Nous on était dans leur espace. Là ils sont là comme. Okay. Nous, on monte sur scène, là, ils nous attendent. Comme, c'est plate. Okay. Qu'est-ce que vous faites là? Vous? Hein? Donc, on se prépare à prier. Là. C'est tout un... on se met en position. Puis, okay, on ton latitude. Puis, bon. Okay. Un des gars, là, il est en bas. c'est le leader un peu. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bon, on s'apprête à prier, on prie. Il dit, hein? Il dit, priez là. Il dit, pourquoi vous faites ça? OK? J'ai dit, ben, j'étais très pastoral, mais j'ai dit, oh, enfin, si on partit là, on prie pour vous. Non, j'ai dit, non, on prie pour vous. J'étais sincère. J'ai dit, on prie pour vous parce qu'on aimerait que à quelque part, là, que vous voyez que Dieu est là, qu'il vous aime, que, tu sais, oui, alors, voilà. Là, il m'écoute. Il y a une petite pause, là, puis après, il dit, est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? J'ai dit, je pensais qu'il jouait, là. Je pensais vraiment qu'il se moquait. T'sais. J'ai dit, vous voulez prier? J'ai dit comme ça, vous voulez prier? Il dit, est-ce qu'on peut? Et le deuxième, est-ce qu'on peut, là? C'est là où il m'a eu. C'est là, il dit, oh non, il y a quelque chose qui se passe ici. J'ai dit, oui, vous voulez. Là, il monte, avec nous, sur scène, là. Okay? À un moment donné, on se prépare à prier, encore, ça nous prend du temps. Okay? Et le gars, il me dit, ferme pas tes yeux, on va te faire mal. Il m'a dit ça. Hein? Imposant physiquement comme je suis. Mais sur le moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'était ridicule. Bon, moi, il semble, cette phrase-là, c'est comme, ben, je ne pense pas. Je pense pas. On prie? Non, on prie ensemble. Les gars, ils ne prient pas, là. Ils ne s'expriment pas, mais ils sont là. Ils sont là, même comme s'ils savaient c'était quoi. Comme ils se tiennent là, ils sont silencieux, ils sont comme respectueux, tout ça. On finit. Ben nous, on part, les gars, ils partent. Bye, tu sais. Comme ça. On les voit même plus tard en après-midi, ils nous saluent, là, ils nous envoient la main. Hein? Je ne l'ai jamais revu. Mais ça me marque, là. Et la phrase qui me marque, c'est « Est-ce qu'on peut faire ça? » OK? La raison pourquoi la phrase est importante, c'est qu'il faut être en proximité. Il faut être en proximité afin de permettre une telle chose. Si les gens ne voient pas ce que c'est de vivre avec Jésus, ils ne peuvent pas poser la question, est-ce que nous, on peut faire ça? Et la réponse est toujours, oui. Tu veux? Vous voulez? Est-ce que nous vivons nos vies de manière présente dans le monde à ce qu'on peut, est-ce que les gens peuvent dire, est-ce que je peux faire ça? Donc, Jésus, comme modèle, est toujours en train de susciter ce genre de réaction. Des gens qui viennent vers lui, souvent les gens qui sont le plus dans le besoin, s'approchent de lui, veulent être avec lui. Je veux lire une citation vient d'un théologien qui s'appelle Stanley Hauerwas. Il dit le peuple de Dieu est appelé à être un peuple de paix, mis à part par la vérité de Dieu en Christ, qui peut vivre comme un peuple pardonné, qui peut vivre comme un peuple pardonné. Ce statut de mise à part en Christ ne veut pas dire que les chrétiens sont meilleurs que les non-chrétiens. Ils sont appelés à vivre dans la fidélité à l'appel de Dieu et d'annoncer déjà la réalité du royaume de Dieu. Donc, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes appelés à annoncer la réalité du royaume maintenant. À être signe du royaume maintenant. Comme Jésus a été signe de la présence du royaume, de par sa proclamation, de par C'est guérison. Nous ne sommes pas meilleurs que les non-chrétiens. J'ai combien de temps là? C'est pas mal? C'est bon. OK, je m'arrête. OK, ce que je vais faire là, on va continuer un peu cette partie avec Jésus, juste terminer ça au début de la prochaine session, si ça vous va. Mais je veux arrêter là, puis je veux encore qu'on prenne quelques moments pour... Encore, ce serait facile pour moi de dire, voilà, il faut éviter toute situation où le compromis est possible. Si je vous dis ça là, et je m'en vais d'ici, vous allez dire, David Miller, c'est un gars qui comprend ce que c'est de vivre dans le monde et de vouloir rester fidèle à Dieu. Mais en bonne conscience, si on va regarder le modèle de Jésus, là, je ne peux pas vous dire ça, point. Parce que Jésus ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il était présent avec les gens. Il était une influence dans leur vie. Le mouvement n'est pas d'abord un mouvement d'abord de protection, même si dans Jean 17, Jésus dit, je te demande, Père, non pas de les ôter du monde, mais de les protéger du mal ou du malin. Okay? Donc, pleinement conscient, le monde, c'est un lieu dangereux. Tout le temps. Même si je suis seul. Alors, ce qui me protège dans le monde... Encore, n'est pas d'abord la distance, c'est ce que je vis avec Dieu. Sinon, je n'ai pas de bonnes nouvelles à annoncer. Honnêtement, là, si tout ce qui me tient, c'est la distance, je n'ai rien annoncé à mes amis. Si le Dieu qui n'est pas capable de me transformer à l'intérieur et faire de moi une personne intègre qui vit dans le monde, j'ai rien à dire. Encore, vous allez dire, je ne veux pas manquer de sagesse ici. Je ne dis pas, on peut aller n'importe où, n'importe quand, vivre n'importe quoi. C'est pas ça que je dis du tout. Mis à part par Jésus pour vivre dans le monde. Mais si on regarde le témoignage biblique, l'accès, la proximité avec le monde est là. On va revenir sur le... Je sais que c'est pas assez. Oui. OK. Est-ce que la relation que je vis avec Dieu produit un désir de vivre dans ses voies? Est-ce que ce que je vis avec Dieu, seul, là, si je vivais sur une île quelque part, là, est-ce que ce que je vis avec Dieu en Jésus-Christ produit en moi le désir de travailler pour lui, de vivre avec lui? Premier point. Okay? Deuxième point. Est-ce que ce que je vis avec les autres, et là on peut parler de situations précises, reflète ça? Est-ce que je demeure quelqu'un qui suit Jésus dans le cadre de cette relation? Encore, la première question n'est pas avec qui. En proverbe, vous allez dire, oui, mais David, proverbe, OK. Tu sais, à force de se tenir avec les gens qui ne sont pas sages, on entre dans la folie. Une citation de, une espèce de fusion de quelques versets en proverbe. Bon. OK? Donc, je ne dis pas, si j'aime me tenir avec les gens, et ça m'attire vers ce que Dieu ne veut pas, ça expose en moi ma faiblesse, mon péché. Je dois être honnête devant Dieu et dire, je ne ferai plus ça. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est que, à quelque part, ce que j'entends souvent des chrétiens là, qui sont dans les, soit qui ont grandi dans les familles chrétiennes ou qui sont devenus, c'est pire, qui sont devenus chrétiens par après et après commencent à tenir ce discours. Et le discours, c'est « Oh, je suis chrétien depuis 5, 6, 7, 8 ans, là, je viens d'une famille chrétienne. J'ai même pas d'amis non chrétiens. » Comme si c'était un signe de maturité. Je suis vraiment consacré. J'ai même pas de rapport, de contact avec les non-chrétiens, sauf que quand il y a un événement, quand on veut inviter quelqu'un à vivre quelque chose, une expérience de témoignage, là j'aborde. Okay? J'ai pas de relation à part ça. Je vous dis, je vous propose que ce n'est pas une marque de maturité. On est déséquilibré. Si on n'a pas de langage qui nous permet de parler aux gens autour de nous et de nous voir solidaires avec eux, le problème, ce n'est pas eux, c'est nous. Parce que Jésus était capable de faire ça. Fouille-moi comment il a fait. OK? Dans un sens, ça me fascine. Parce que nous, justement, on est comme, OK, on se tient à distance, on se protège. Ou bien, c'est la fusion, tu sais. Le monde nous envahit. C'est l'un ou l'autre. Jésus n'était pas ni l'un ni l'autre. Il est présent avec Dieu dans le monde. Mais ça me force à être honnête face à Dieu. Qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Qu'est-ce que je veux vivre avec toi, Seigneur? Quelle sorte de vie? Est-ce que je veux vivre avec toi dans le monde? Que Dieu nous aide à être des gens qui montrent, qui démontrent même ce que c'est d'exprimer de l'amitié envers les gens autour de nous. De moins en moins, les gens sont capables de concevoir et de construire une amitié. Une confiance. Mais nous, on est équipés pour faire ça. Oui, Ruben. Okay. Alors, ce que j'aimerais dire, je veux, ok, vous allez tester ça, mais c'est la fin. Mais bibliquement, et c'est parce que moi je veux être fidèle ici. Je ne veux pas jouer là, je ne veux pas me présenter ici comme un gars qui propose une approche postmoderne. OK? Si c'est postmoderne, OK, correct. Moi, qu'est-ce que ça me fait rien dans un sens. Moi, est-ce biblique? Est-ce vraiment selon le modèle de Jésus? Et si c'est ça que je veux qu'on sonde ici, c'est ça que je veux qu'on creuse ici, c'est pas d'être cool. Hein? Moi, là, ça donne rien, ça. Mais qu'est-ce qu'on a à vivre si l'Esprit de Christ nous habite et nous sommes dans le monde et nous sommes appelés à vivre Jean 17? Ça va nous amener où, ça? Ça, et ça, justement, on le voit pas assez.